Pointe, David Torchala.
Et bonsoir, bienvenue dans l'heure de pointe, le magazine de société sur Radio Présence. Bienvenue à ceux qui nous écoutent dans les Hautes-Pyrénées, dans le Béarn, dans le Gers, qu'on nous écoute en FM ou en DAB+. On va même jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà, c'est dire. On vous accueille depuis nos studios de Lourdes en compagnie de Anne Deslois. Bonjour Anne.
Bonsoir à tous. Bonsoir David.
Vous êtes chroniqueuse dans cette émission, bénévole, engagée dans la solidarité international,
vous allez
nous... Ah oui, puis vous allez nous faire part d'une initiative remarquable, l'Agora de la paix. On va en parler dans un instant avec vous. Et puis, on est avec Delphine Pereira. Bonjour Delphine.
Bonjour David, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste pour la Dépêche du Midi.
Bonjour.
La République des Pyrénées. Merci d'être avec nous. Alors, nous avons aussi deux invités avec nous. C'est Claire Audiquet. Bonjour Claire.
Bonjour David, bonjour à tous.
Et puis, Lina Fourcade.
Bonjour David.
Vous êtes toutes les deux, vous travaillez au sein du parc animalier d'Argelès-Gazost, à quelques pas de Lourdes. Ce parc animalier fête ses 25 ans, une aventure qui débute en 99 avec la création par Serge Mounard de la colline aux marmottes, et puis très vite cette colline va s'étendre au massif, au point de compter aujourd'hui parmi les plus grands parcs animaliers d'Europe, on peut le dire ?
Oui, bien sûr, on peut le dire.
Ben voilà, on va découvrir ça avec vous. Il y a plus de 500 animaux, on va peut-être pas les passer un à un, mais vous allez quand même nous faire découvrir ça. Vous restez avec nous, mais peut-être Anne, parlons de cette initiative qui s'organise à Lourdes, l'Agora de la paix.
Et oui, l'Agora de la paix, en fait, c'est une initiative que le CCFD Terre Solidaire a pris il y a déjà quelques mois pour fêter, en fait, c'est pas les 25 ans, mais les 30 ans de l'espace rencontre. Et l'espace rencontre, c'est un lieu d'animation que le CCFD Terre Solidaire... Alors CCFD, c'est Comité Catholique contre la faim pour le développement. Ils ont voulu, en fait, au niveau des responsables du CCFD Terre Solidaire à l'époque, qu'il y ait un lieu pour, à Lourdes, aussi bien des publics, on va dire, qui viennent en pèlerinage, que des touristes, que des publics passants, faire découvrir en ville de Lourdes la solidarité internationale. Et si bien que dans la rue du Bourg, à quelques pas, on va dire, du cachot ou du commissariat, tout ça dépend de nos références.
Au pied du château fort.
Au pied Lourdes, du château fort, bien sûr, dans ce beau quartier de la ville de Lourdes, le CCFD Terre Solidaire a ouvert une maison qui s'appelle donc l'Espace Rencontre, qui est un lieu d'animation, un lieu aussi d'information sur la solidarité internationale. Et l'idée, le CCFD travaillant aussi avec le sanctuaire, c'est bien d'être situé dans la rue du Bourg, parce qu'il y a à la fois un engagement, j'ai envie de dire, du côté des animations faites pour les pèlerins qui sont au sanctuaire de Lourdes, mais aussi pour les touristes, les gens de passage et les gens de la ville haute de Lourdes. Donc, on a à la fois un pied, on va dire, dans la vie, dans la société religieuse et un pied dans la société civile.
Mais qu'est-ce qu'on y vit concrètement ?
L'espace rencontre, en fait, c'est, donc je disais, un lieu d'animation parce que on essaye de faire découvrir aux gens qui passent là l'importance des liens entre les peuples, quoi. Et bien découvrir aussi notre engagement ici, enfin le fait d'agir ici comme acteur du développement, ça a des répercussions automatiquement sur le développement international et la solidarité. Et on fait découvrir, parce que le CCFD Terre Solidaire a 500 partenaires à travers le monde entier, et grâce à l'expérience de ces différentes associations ou groupes, ONG, etc., qui se trouvent dans le monde entier, notamment en Afrique, en Amérique latine, en Asie, on fait découvrir vraiment ce qui fait la vie des gens sur place. Et on s'engage beaucoup auprès d'associations qui cherchent en fait à vivre dans un plus grand esprit démocratique aussi. Alors sans être, bien sûr, on n'est pas un organisme politique du tout, mais avec nos valeurs, on va dire chrétiennes, et nos valeurs au niveau des droits de l'homme, on essaye en fait vraiment de soutenir des associations sur place qui mettent en place des actions pour que l'homme, la femme, les enfants soient des êtres debout et s'engagent pour une meilleure humanité, en fait.
Pour célébrer ces 30 ans, vous avez choisi une date, c'est le 18 mai, le samedi 18 mai.
Samedi 18 mai, ça fait partie du week-end de Pentecôte. Et puis pour Lourdes, ça sera la veille du jour où il y a la flamme olympique qui passera dans la ville et dans le sanctuaire d'ailleurs.
C'est ça, le dimanche 19 mai au matin.
Effectivement, le samedi 18 mai, nous organisons à la cité Saint-Pierre, ce qu'on appelle l'Agora de la paix, parce que c'est un des thèmes qui est très porteur au niveau du CCFD, c'est la paix et le vivre ensemble. Et comment on est appelé, chacun de nous, dans notre quotidien, à être des acteurs de paix? Ça commence comme ça. La paix entre les peuples, surtout dans une société, des sociétés qui sont tellement malmenées en ce moment, etc., tous les conflits qui existent à travers le monde, et puis des fois très proches de chez nous, il y a une répercussion peut-être dans nos vies quotidiennes à avoir pour justement qu'on mette en place des choses entre nous, humains, dans les différentes relations qu'on a, pour être un peu plus fraternels. Certainement peut-être un peu moins égoïste sur des choix de vie pour une meilleure humanité, quoi. Donc c'est vrai que le CCFD est très engagé là-dedans. Et alors pour l'Agora de la paix, il y a toute une réflexion qu'on essaye de mener, mais à partir d'échanges et de partages d'expériences concrètes qui se vivent déjà, notamment à la cité Saint-Pierre, le samedi dans la matinée et en début d'après-midi, on fait différents ateliers qui sont des ateliers aussi qui vont nous permettre une certaine formation, comment animer aussi, mais aussi comment développer autour de nous des initiatives de paix. Alors, en prenant comme ça, exemple sur des choses qui existent déjà avec différents acteurs du terrain. Et puis, un temps qui va être très important, c'est une table ronde qu'on organise au Palais des Congrès de Lourdes. Donc là, c'est un temps qui est ouvert à tous. Si on a quelques auditeurs qui voudraient venir et qu'ils se présentent le samedi 18 mai à 16h au Palais des Congrès. Et là, nous avons donc une table ronde avec Monsieur Lavitte, le maire de Lourdes, mais aussi la déléguée générale du CCFD Terre Solidaire qui vient de Paris et qui, elle est nouvellement responsable au niveau national, mais elle a été très engagée, habitant dans le 9-3, comme on dit, dans la Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Elle a vraiment une expérience dans des quartiers difficiles, comment favoriser du vivre ensemble. Et puis, on aura la chance d'avoir deux partenaires du CCFD qui viennent du Tchad. Ils viennent spécialement pour cette organisation de l'Agora de la paix. Et ces deux partenaires tchadiens, eh bien, ils sont, eux, des acteurs très actifs, justement, très, très partie prenante pour qu'il y ait des choses qui changent au niveau même de leur pays, pour que les Tchadiens puissent connaître aussi une stabilité et une vie plus agréable, quoi. Donc voilà, et on a quand même, il ne faut pas que j'oublie, pour un acteur ici dans notre région qui est assez connu peut-être, des auditeurs, c'est Vincent Fonvielle, qui lui est le président de Pyrénéo, mais qui, il y a quelques années, avait mis en place la balaguère et tout un tourisme éco-responsable. Donc, vous voyez, avec le maire de Lourdes, avec Vincent Fonvielle pour la partie rurale, avec les partenaires et la déléguée du CCFD national, c'est aussi avoir des regards croisés sur cette problématique du vivre ensemble et comment ça nous appelle tous à plus de fraternité, être solidaire de tous et du coup à être acteur de paix. Voilà l'Agora de la paix, ce qu'on aimerait bien faire découvrir.
L'Agora de la paix, le 18 mai à Lourdes, on a tant besoin de paix, vraiment en ce moment. Et puis voilà, se dire que ça démarre déjà dans nos actes quotidiens. Voilà, semer une petite graine de la paix. Merci beaucoup, Anne, de nous partager cette initiative. Alors, écoutez, on continue cette heure de pointe avec l'équipe du parc animalier d'Argelès. Là aussi, un lieu, oulala, de paix, de quiétude, en pleine nature. Nous sommes avec Claire Audiquet, vous êtes responsable de la communication du parc. Et puis avec vous, Lina Fourcade, vous êtes responsable de secteur, en tout cas le secteur peut-être un peu le plus haut, celui des mammifères.
C'est voilà.
Alors, juste pour situer nos auditeurs, Le parc animalier se situe un peu à cheval entre Argelès-Gazost et la commune d'Aïzacoste, à 10 minutes de route de Lourdes, nous sommes dans les Hautes-Pyrénées. 130 000 visiteurs, certainement plus dans les mois à venir, se rendront et se rendent habituellement au parc pour aller découvrir plus de 500 animaux. Peut-être avec vous, Lina, faites-nous voyager, on met les baskets ensemble et puis on grimpe. Qu'est-ce qu'on a à voir dans le parc animalier d'Argelès ?
De nombreuses espèces. Hein. Donc on a forcément nos emblématiques marmottes, nos fameuses marmottes. On va continuer avec les ours, on a nos loups gris aussi. Ce sont des animaux principalement de faune européenne. Mais on va aussi côtoyer des animaux plus exotiques, donc notamment les pandas roux avec leur tête toute mignonne. On va avoir les lémuriens, enfin de nombreux oiseaux aussi avec de multiples couleurs.
C'est d'abord un peu dans l'intuition du fondateur Serge Mounard, c'était quand même une mise en valeur de la faune pyrénéenne.
Oui, bien sûr, ça a commencé comme ça, justement. Le début du parc, c'était principalement le musée avec cette faune européenne. Et puis, petit à petit, c'est venu avec les marmottes, les isards, principalement faune européenne, oui.
Anciennement, la colline aux marmottes, l'eau marmotte, donc.
Et oui, c'est ça, la colline aux marmottes qui est devenue grande. et voilà,
qui est
au point
de
devenir
un
parc animalier. 25 ans. Vous, Delphine Perrard, vous connaissez bien ce parc.
Ah oui, j'estime être une habituée.
Une habituée. ça demande des reportages.
Et justement, on peut être habituée, mais tous les ans, vous avez des surprises. Parce que je crois que c'est un petit peu dans l'ambition du parc de proposer de nouvelles espèces chaque année. Je crois qu'il y a des échanges entre parcs, des espèces protégées, des espèces en danger, plus ou moins. Et on peut y aller chaque année et il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est ça qui est sympa.
Claire, vous confirmez, c'est vraiment un souhait du parc que de...
C'est l'intention du parc. Cette année, on a accueilli de nouvelles espèces comme les dholes qui sont... des chiens d'Asie, entre guillemets, c'est un peu un mélange du renard et du loup. On a accueilli une meute de dholes, nous avons accueilli des wallabies des rochers, une espèce d'Australie.
Les wallabies, c'est des kangourous.
Des kangourous.
Des petits kangourous. Nous avions déjà les wallabies de Bennett, et on a maintenant les wallabies des rochers. Ce sont deux espèces différentes, dont Lina pourra mieux vous en parler que moi, du coup. nous accueillons de nouvelles espèces chaque année dans le but de développer le parc.
Le parc animalier, c'est, si je ne me trompe pas, une vingtaine de terrains de foot, finalement, si on met en superficie, ça va faire 14 hectares. On est quand même en montagne, donc c'est vallonné. C'est pour tous, on peut tous venir, c'est accessible.
Alors nous proposons deux types de parcours. Nous avons le petit parcours qui est plus adapté donc aux personnes à mobilité réduite. Nous avons des personnes qui le faisons même en fauteuil roulant. Avec les poussettes, et nous avons une autre partie donc, qui fait partie du grand parcours. C'est une boucle qui peut être ajoutée. Là, c'est plutôt raide, donc c'est une partie sur laquelle nous avons une meute de loup noir. Nous avons les bouquetins, c'est à cet endroit-là. C'est vraiment une partie. Là, pour le coup, c'est quand même raide et c'est pas accessible à tous. Mais sinon, on a quand même beaucoup de personnes qui le font en étant en mobilité réduite, ou même avec des poussettes avec les enfants, avec des petits en bas âge. Donc c'est quand même accessible à la plupart des personnes, pas à tous.
Et vous pouvez le faire durant toute la journée, parce qu'il y a aussi une partie restauration. Donc on peut rester dans le parc, déjeuner, et puis faire la suite pour éliminer un petit peu.
On entend quand même l'habituée du parc, vous voyez, elle parle même de restauration. En fait, c'est aussi ça, c'est peut-être aussi le signe de la richesse du parc. Lina, on a énuméré assez rapidement ces animaux, mais finalement, on peut y passer combien de temps finalement, dans le parc ?
Une journée.
Ah, une journée.
Et même
journée.
La nuit,
bien sûr.
Ah, et la même nuit. La nuit.
N'oublions pas les nuits. Qui sont aussi belles que les jours, comme dirait un auteur connu.
Oui, ça c'est vrai, parce qu'en fait, on peut également dormir avec des animaux sauvages. Je propose qu'on marque une pause et puis que l'on découvre ça dans une deuxième partie, parce que, il y a le parc le jour et puis il y a le parc la nuit. Alors si vous voulez en savoir plus, on écoute une belle petite chanson et puis on se retrouve juste après ça.
Thank you. fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Sous l'orage, je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
L'heure de pointe, David Torchala.
Et bienvenue dans cette deuxième partie de l'heure de pointe. Alors ici, on parle des marmottes, on parle des ours, on parle des loups. Oui, parce que ce soir, nous vous faisons découvrir le parc animalier d'Argelès-Gazost, enfin plus précisément de la commune d'Aïzacoste, à quelques kilomètres de Lourdes dans les Hautes-Pyrénées. Un parc animalier qui fête ses 25 ans, qui vraiment, pour ceux qui ne le connaissent pas, gagne à être connu. On a parlé on a essayé d'évoquer, il y a plus de 500 animaux, alors c'est sûr qu'il faut un peu de temps. On a parlé du parc le jour, mais c'est aussi, on en parlait, c'est le parc la nuit. Et bien oui, il y a une promesse, c'est qu'on peut dormir avec des animaux sauvages. Pour en parler, nous avons Claire Audiquet qui est là. Ça va toujours, Claire?
Toujours.
Vous êtes responsable communication du parc animalier et vous êtes en compagnie de Lina Fourcade. Ça va, Lina?
Ça va très bien.
Et vous êtes, vous, responsable de secteur, ça fait 6 ans que vous êtes dans le parc. Alors, avec nos chroniqueuses, Anne Deslois, ça va aussi, Anne?
Ça va très bien.
Anne, vous connaissez pas encore le parc,
non,
mais ça vous donne envie,
oui,
hein, d'y aller.
Peut-être pas le week-end, ce week-end-ci, mais je suis sûre avant l'été, je vais y aller.
Oh, avant l'été, oui. Mais alors, par contre, nous avons une habituée, c'est Delphine Pereira. Ça va, Delphine?
Je passe toutes mes journées
mais
au
non,
parc animalier.
Delphine, vous êtes journaliste, évidemment, en reportage au parc. Alors, vous allez peut-être nous raconter ça. Vous avez passé une nuit avec les loups.
Deux
nuits avec les loups. Mais c'est quand même incroyable.
C'est une expérience très simple. Moi, j'ai fait les loups noirs 2 fois de suite. Et à ce moment-là, ils avaient des louveteaux. Donc, c'était encore plus sympa. On avait donc une chambre, c'est magnifique à l'intérieur. Vous regardez les brochures, c'est assez somptueux. Le soir, vous êtes seul. Vous avez une terrasse immense, vue sur la vallée au
presque, parce qu'il y a des arbres un petit peu partout. C'est d'un calme exceptionnel. Et surtout, derrière la vitre, derrière votre lit, il y a une vitre. Et puis, vous voyez évoluer le couple de loups. Et à l'époque où j'y suis allée, il y avait des louveteaux. Il y en avait 3, si je me souviens bien. Et je les trouvais couchés sous la fenêtre.
Ah,
en fait.
Votre lit, quand même.
Ouais, non. Je ne sais pas si j'aurais bien réagi. Sous la fenêtre et sur les coups de 5-6 heures du matin. Donc, vous pouvez profiter vraiment du spectacle tout le temps. Et il me semble qu'il y a les ours aussi.
Oui, et c'est ça, on est quand même
et les marmottes.
Pas les marmottes, les
loups gris.
Les loups gris, ça y est. Alors, voilà, j'y suis. Et il y a un nouveau lodge, c'est pour ça. Je voulais en venir là. Il y a un nouveau lodge en construction qui sera opérationnel l'année prochaine.
C'est ça, Claire, Diquet. Oui, très bien.
On a, donc là, actuellement, nous avons 3 écolodges. Donc un pour dormir avec la meute de loup noir du Canada. Un pour dormir avec les ours bruns et un avec les loups gris d'Europe. Et là, actuellement, nous en avons un en construction pour dormir avec les pandas, qui font partie des animaux favoris du parc.
Ah oui,
qui devraient, les réservations devraient ouvrir d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, nous pouvons déjà réserver pour l'année prochaine, se mettre sur pré-liste d'attente pour les réservations de l'année prochaine avec nos loups gris, nos loups noirs et nos ours.
Oui, parce que si j'ai décidé, moi, ce week-end, d'aller dormir, il n'y aura pas de place.
Ça va être compliqué.
C'est ça. Ça correspond à une demande, alors, c'est ça.
Oui, mais là, par exemple, avec les ours, nous sommes complets jusqu'en juin. Nous n'avons plus de week-end disponible avant le mois de juillet, du moins pas de samedi soir, ni avec les ours, ni avec les loups. Donc, voilà. Et les pandas roux, si tout se passe bien, l'ouverture devrait ouvrir fin d'année et le lodge devrait être opérationnel pour l'année prochaine.
Ça, c'est quand même une expérience. Ça veut dire qu'en fait, on se retrouve un peu seul dans le parc pendant la nuit.
Totalement.
Et alors, on peut après déambuler dans le parc la nuit, j'imagine.
C'est pas conseillé.
Que c'est... Oui, non, mais il y a quand même une question de sécurité.
Alors, à partir de l'heure de fermeture du parc, vous ne pouvez pas sortir de votre logement pour des questions de sécurité, justement. En revanche, vous pouvez profiter de la vue que vous avez depuis votre écolodge. Depuis les loups noirs, donc il y a vraiment une vitre depuis la chambre, donc depuis la tête de lit, une vitre qui donne sur leur enclos. Et depuis l'extérieur, pareil, une grande terrasse avec très grande baie vitrée qui donne sur les loups, donc on peut voir en continu. Pour les ours, c'est pareil, une énorme baie vitrée depuis qui fait toute la chambre, qui fait clairement toute la chambre. Donc on peut les voir depuis le lit, on peut les voir pendant qu'on est en train de manger, on peut les voir tout le temps. Et pour les loups gris, c'est pareil, une grande baie vitrée qui donne depuis la cuisine. Et depuis la chambre, on a une fenêtre aussi qui donne sur les loups. Donc, on ne peut pas déambuler dans le parc, mais par contre, on peut profiter des animaux avec lesquels on passe la nuit.
Ça, c'est quand même une expérience assez incroyable. Ça montre aussi le dynamisme du parc, de vouloir aussi se renouveler. On a jamais dit le mot zoo, parce qu'en fait, finalement, ce n'est pas un zoo.
Nous sommes un parc, on a beaucoup de... C'est des animaux qui sont en semi-liberté pour beaucoup.
Ah,
on
oui.
a beaucoup d'enclos immersifs dans lesquels on passe vraiment réellement. Les animaux ne sont pas forcément derrière des grillages, ils ne sont pas tous enfermés comme dans la plupart des zoos, pour le coup. Alors, on emploie davantage le terme de parc animalier.
Ah oui. Lina Fourcade, vous qui êtes au contact des animaux, donc c'est ça, c'est une semi-liberté.
Ah oui, complètement. On a pas mal d'enclos. Donc, comme elle disait Claire, c'est des enclos en immersion. On est au plus près des animaux. Sur le haut du parc, notamment, on a des bouquetins. Donc, eux, il leur faut un très grand espace. Hein. Donc, c'est vrai que c'est... On considère plus le terme parc animalier avec... Ben voilà, des enclos beaucoup plus grands, des espaces plus grands, tout simplement, pour nos animaux.
Et puis, il y a aussi une demande, c'est aussi un peu l'interaction du public. On a envie de donner à manger. Alors souvent, il faut se retenir de partager, j'imagine, le paquet de chips qu'on a dans le sac à dos. Ben, ça ne doit pas être très conseillé, hein, c'est ça.
C'est ça. Non, c'est pas conseillé. De toute façon, on le répète, hein, on le dit, c'est les soigneurs qui nourrissent les animaux avec la nourriture adaptée, hein, le paquet de chips.
Mais c'est aussi une occasion pour petits et grands aussi de découvrir aussi des espèces. Et alors, on a dit que le panda roux, il est mignon, donc ça doit correspondre quand même à une attente. Mais bon, on peut pas dire que vos animaux préférés, vos favoris, lesquels sont-ils?
Tous. non, forcément, ils sont tous différents, on les apprécie tous. Mais après, si on doit avoir, moi, personnellement, oui, nos marmottes sont vraiment les chouchous, quoi.
Ah oui, les marmottes, donc là, elles sont sorties parce qu'elles ont fini d'hiberner. Quelles sont les périodes, à peu près?
Alors, du coup, ça tombe en pleine période d'hiver, donc quand le parc est fermé, mais elles commencent à hiberner en général début novembre jusqu'à l'ouverture du parc fin mars.
Ah oui,
elles sont là pour l'ouverture.
Voilà, c'est bien.
Et justement, s'il est interdit de donner à manger aux animaux, il y a quand même des activités où justement encadré, on peut participer à ce nourrissage des animaux, notamment pour les petits et les grands.
Et les grands, ouais. Oui. Il y a aussi beaucoup de grands. Oui, l'activité soigneur d'un jour.
Alors, soigneur d'un jour, c'est quoi? Donc, on part avec vous et puis on passe la journée?
C'est exactement ça. Vous arrivez le matin, vous êtes avec un soigneur et on vous montre les deux parties du parc, donc le secteur oiseaux et petits primates avec un soigneur. Et ensuite, vous passez sur la seconde partie du parc avec un autre soigneur qui vous présente le haut du parc et vous rentrez dans les enclos. Vous faites un petit peu de nettoyage, mais principalement du nourrissage. Donc vous êtes au plus près des animaux.
Alors, on peut imaginer que c'est quasiment une cantine, parce que il y a des régimes alimentaires un peu partout. Enfin, donc on prépare les plats pour les animaux.
Voilà. On ne voit pas tous les animaux du parc, hein, oui. Ça serait beaucoup trop. Mais effectivement, on a sélectionné pas mal quelques espèces où, du coup, on voit de tout. Tout à fait. On voit des herbivores, on voit des frugivores et des petits carnivores.
À partir de quel âge?
Des 7 ans.
Dès 7 ans, il faut être accompagné d'un adulte.
Accompagné d'un adulte.
Et après, à partir de quel âge cette activité peut se faire seule?
À partir de... J'ai pas envie de dire de bêtises. Bon. Il me semble que c'est 14 ans.
Ouais, très bien. Non, mais c'est vrai que là aussi, finalement, c'est découvrir aussi voilà, les parcs d'une manière autre, avec, en vivant des expériences, en fait, à l'intérieur. Anne, pendant la pause...
Oui, moi, je me demandais justement quelle formation on a. Est-ce qu'il y a une formation spécifique pour être soigneur ou bien il faut être vétérinaire? Je me suis jamais renseignée, moi. Comment on devient soigneur?
Alors, on n'a pas les mêmes études que les vétérinaires, hein, pas du tout. Les soigneurs, en général, ont des formations de soigneurs animaliers. Donc, il y a quelques écoles en France, donc 4 qui sont bien reconnues maintenant en France. Et du coup, il faut passer par ces écoles-là pour devenir soigneur animalier.
Alors, de temps en temps, vous accueillez des stagiaires au parc animalier?
Alors oui, bien sûr. Stagiaires majeurs. Parce que voilà, faut savoir que vous rentrez avec des animaux, des espèces dangereuses. Donc on prend des personnes majeures et pour les prendre en stage sans problème, oui.
Aujourd'hui, avec le temps, évidemment, vous êtes familière des animaux, mais quand même la question de sécurité, je pense notamment aux loups, quoi. Ça fait partie donc des mesures de sécurité que vous appliquez au quotidien.
Ah bien sûr, voilà, comme je disais, on travaille à des espèces dangereuses, donc notre boulot de soigneur animalier, ce n'est pas que du nourrissage et de l'entretien d'enclos, c'est aussi des vérifications d'enclos, justement de clôture pour déjà protéger nos animaux, hein, pour éviter qu'ils puissent se blesser, mais aussi pour éviter tout ça. Et puis, c'est de la sécurité, donc on contrôle nos enclos, bien sûr.
On l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment un souhait du parc que de se renouveler, tant dans les expériences, dans les infrastructures, mais aussi dans l'accueil de nouvelles espèces. Comment ça se passe, finalement? Comment on choisit? Est-ce qu'on se dit, pourquoi pas, faire un coin de reptiles ou, enfin, comment on fait le choix, en fait, des espèces qu'on accueille dans le parc?
Alors... C'est une très bonne question. En général, c'est vu avec la direction de quelles sont les espèces qui seront intéressantes déjà pour les visiteurs de côtoyer. Hein. Si on propose des serpents, je ne suis pas sûre que ça plaise à tout le monde.
Oui.
Donc voilà, on fait déjà un petit sondage entre nous, entre la direction, pour voir quelles seraient les espèces que l'on pourrait présenter. Et après, tout simplement, on rentre en contact avec les deux autres parcs zoologiques pour voir leur fonctionnement, les bâtiments. Et puis, vient aussi la place du parc, bien sûr, pour si on peut accueillir ces animaux-là. Il faut forcément parfois plus d'espace que d'autres quand ce sont des gros animaux.
Ah oui, donc on imagine que c'est un réseau, finalement, entre les parcs.
Tout à fait.
Et la vocation du parc, c'est aussi de mettre en avant les espèces qui sont en danger un petit peu partout dans le monde. Donc c'est aussi une vitrine et souvent, il me semble, si je ne m'avance pas trop, qu'il y a des espèces qui sont en réel danger ou menacées. Et c'est aussi ça peut-être de montrer au public qu'il existe aussi des espèces qu'on risque de perdre et qui sont préservées en captivité comme ça pour... comme une vitrine, comme je disais, une vitrine pour alerter un petit peu sur ces dangers.
Exactement. En fait, c'est les buts aussi des parcs zoologiques, c'est montrer des espèces qui sont potentiellement ou bien, c'est le cas, quasi menacées ou menacées C'est le but des parcs zoologiques de présenter ces espèces-là pour que c'est un réel impact, nous, après, par tout ce qui va être pédagogie, de montrer aux futures générations que si l'on ne fait pas quelque chose, cette espèce-là, on ne la verra plus. Donc, c'est vrai, on peut le voir comme une vitrine. Moi, je le vois plus comme des ambassadeurs. Ce sont des espèces qui sont représentées par ces animaux qui sont nés en captivité. Il faut savoir que tous nos animaux sont nés en captivité et qui représentent justement cette espèce-là qui est en milieu naturel. Et effectivement, à l'heure actuelle, on a beaucoup plus d'espèces, beaucoup sur le parc, qui sont quasi, voire menacées, de plus en plus.
C'est ça, le parc animalier, c'est vivre une aventure, quelque part, grandeur nature, voilà, de l'expérience, de la protection, de la faune, de la découverte, de la sensibilisation avec les enfants. C'est vrai que c'est assez, assez riche. Si on veut venir au parc, Claire, qu'est-ce qu'on cherche sur Internet?
Alors, déjà, je voudrais rajouter juste une petite chose concernant la conservation de certaines espèces. Nous avons également ouvert une fondation qui s'appelle Pyrénées Conservation, qui lutte justement pour la protection de certaines espèces qui sont menacées, voire quasi menacées. Nous avons ouvert un centre d'élevage du gypaète barbu, qui est un rapace donc emblématique des Pyrénées, qui est vraiment menacé. Notre but est de les réinsérer donc dans les Pyrénées. Actuellement, nous avons un couple mature de gypaète barbu, parce qu'il faut savoir qu'il faut attendre l'âge de 7 ans avant qu'ils puissent reproduire, qui a donné naissance à 2 œufs l'année dernière. Il faut savoir que les gypaètes, comme beaucoup de gros rapaces, il existe un phénomène qui s'appelle le fratricide, si je ne dis pas de bêtises, c'est-à-dire que le premier-né va, par instinct de survie, éliminer le second œuf. Donc il n'y a souvent qu'un seul petit qui survit dans les portées. Donc c'est là que nos soigneurs sont intervenus la dernière. Et à la naissance du premier, ils ont récupéré donc, le second œuf qu'ils ont fini de couver, qu'ils ont élevé à la main. Et nous avons pu sauver donc, 2 femelles gypaètes qui sont nées en mars dernier. Là, actuellement, nous avons également accueilli un nouveau gypaète qui a l'âge de reproduire, qui nous vient d'un centre d'Angleterre, dont je n'ai plus le nom, Hurstman, je ne suis pas trop sûre du nom, qui va recevoir une partenaire qui arrivera de Lettonie, qui devrait arriver très prochainement, donc avant la période de reproduction. Pour cette année, nous aurons donc 2 couples reproducteurs pour, on l'espère, avoir de nouvelles naissances et pouvoir contribuer à la réintroduction de l'espèce des gypaètes barbus donc dans les Pyrénées.
Ah oui, mais ouais. Ça c'est... Et où se trouve cette réserve?
C'est juste à côté du parc, donc c'est pas accessible aux visiteurs. C'est à 5 minutes, c'est sur Aïsacoste également, à 5 minutes à peu près du parc animalier. C'est un projet qui peut être soutenu par tout le monde. Donc on peut parrainer certains animaux du parc, comme nos ours, nos loups, nos pandarous. Ce sont des dons donc, qui seront reversés directement à ce fonds de dotation. Et nous avons également possibilité de... Vous avez possibilité de devenir entreprise mécène également pour nous aider dans ce projet de sauvegarde de la biodiversité. Donc.
Ah, très bien. Et du coup, ces fonds en fait, servent à retrouver les conditions de reproduction.
Voilà. Donc là, nous avons ce centre de création de gypaète barbu, mais nous avons également fait d'autres actions pour de la réintroduction de bouquetins à l'État. C'est bien ça.
De bouquetins, oui.
Nous finançons certains projets pour aider à la conservation d'espèces menacées.
Eh bien, écoutez, magnifique. Si on veut venir au parc, qu'est-ce qu'on cherche sur Internet?
Vous tapez Parc Animalier des Pyrénées, vous avez notre site Internet avec toutes les informations. On est également présent sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et Facebook, sous le nom de Parc Animalier des Pyrénées. Nous mettons toutes nos actualités dessus, toutes les nouveautés, donc les nouveaux animaux, les nouvelles espèces. Nous partageons des nouvelles de nos pensionnaires, de nos soigneurs aussi.
Ah, très bien. Une belle famille, en tout cas, le parc. Merci beaucoup d'être venu. Le parc animalier des Pyrénées. Avant de se quitter, il nous reste quelques minutes. Et puisque c'est l'heure du week-end, c'est aussi le temps d'aller se promener. On espère que la météo sera clémente. Et il y a un lieu quand même emblématique des Pyrénées, c'est le Tourmalet, après Vannières. Delphine Pereira, vous êtes allée il n'y a pas très longtemps chez Octave.
Alors chez Octave, Octave c'est le nom d'un cycliste de mémoire, il a réussi à grimper au Tourmalet, pas comme moi, en 1910, ça a été le premier. Et donc le nom, il est sur la façade d'un nouveau bâtiment, nouveau, il a à peu près un an. Et c'est à l'initiative d'un groupe d'amis, de jeunes, de sportifs et surtout de cyclistes, dont Rémi Lafont et Bruno Armirail, qui sont les deux plus connus. Et ils ont eu l'idée de créer donc ce bâtiment au pied du Tourmalet. C'est juste à la sortie de Bagnères. Et pour n'importe quel cycliste qui monte, qui descende, il
peut venir. Il y a un atelier où il y a un coin douche.
Pour son vélo.
Il peut réparer son vélo, entretenir son vélo, se doucher, doucher son vélo. Ensuite, vous avez une salle de restaurant. Mmh. Vous avez aussi des salles pour des séminaires ou si vous voulez faire du travail à distance, etc. Et vous avez dans la salle de restaurant aussi un espace vente de vélos, qu'ils soient anciens ou électriques. Il y a vraiment de tout. Vous avez vraiment même des vélos mythiques. En ce moment, il y a une exposition parce qu'ils ont décidé de mêler la culture avec le sport, avec aussi la mise en avant d'artistes locaux.
D'accord.
Et justement, c'est ce que j'ai beaucoup aimé la dernière fois où j'y ai fait un petit tour. C'est que vous mangez, et en fait, vous mangez sur du mobilier, tabouret, table, le bar, qui ont été réalisés par un artiste local, qui est menuisier et qui a fait tous ses meubles. Et vous mangez dans des assiettes, bols, verres, qui ont été, eux aussi, faits par une artiste céramiste. Et vous pouvez partir avec. Vous pouvez les acheter. Votre tabouret vous a plu, vous pouvez l'acheter. Vous pouvez partir avec. Et c'est génial. Et l'assiette, le vase qui décore, même le bar, vous pouvez avoir le même. Bon, vous ne partirez pas avec sous le bras.
Ah oui,
mais
j'imagine.
Il vous fera le même. Et j'ai trouvé le concept assez sympathique.
Ça, c'est
alors,
un lieu
si vous
incroyable.
Voulez y aller, c'est simple. Vous allez trouver ce fameux géant du Tourmalet.
D'accord.
Cette sculpture immense.
Bannière de Bigorre.
Devant.
Voilà. Très bien.
Et cette sculpture a la particularité d'aller au Tourmalet l'été et de redescendre l'hiver. Alors, l'hiver est devant chez Octobre. Et dans quelques semaines, elle reprendra le chemin du Tourmalet. Donc, et pour finir, donc sur les menus, c'est du local aussi. Donc, ils ont tout misé sur le local. C'est une équipe de jeunes très sympa. Et je vous encourage à aller leur rendre une petite visite.
Oh ben voilà, une idée de sortie du week-end. Aller faire du vélo et puis s'arrêter chez Octave pour réparer son vélo, pour
et
manger
ensuite,
un petit peu.
Aller au Parc des Pyrénées.
Et aller au Parc des Pyrénées, voilà. À vélo, après tout. Alors, Tourmalet, Argelès. Bon, la fois de Chevrolet.
Il faudra faire le petit circuit à ce moment-là.
Oui, il faudra qu'on vous indique, la meilleure route. Mais en tout cas, ben voilà, des idées de sortie pour ce week-end. Anne Deslois, vous l'avez noté. Vous avez envie d'aller au Parc des
Pyrénées. Moi, j'aimerais bien voir aussi Octave.
Ah ben ok. Ah ben écoutez.
Peut-être pas en vélo. Mais...
C'est bon, Anne, elle est partante pour tout. Et bien nous aussi, on ira se promener au parc animalier d'Argelès-Gazost, voilà, pour vivre, être un peu en immersion au niveau des animaux. On aimerait vraiment suivre votre actualité, donc vous reviendrez. On veut savoir si les œufs ont éclos, etc. Et vraiment suivre cette petite vie animalière, voilà, près de Lourdes. Et puis, nous, on va se retrouver la prochaine fois pour l'heure de pointe.
Très certainement.
Ouais, vous serez là ?
Je serai là.
Eh ben, très bien. Et ben, nous aussi. À très bientôt. Merci.
Au revoir.
L'heure de pointe, David Torchalla.